Il semblerait que nous voilà condamnés pour longtemps à la gluance du chacun pour soi et de la misère pour tous. Et ça durera tant qu'on continuera d'exploiter la séparation de façon forcenée au point de mettre tout en œuvre pour empêcher de la conjurer. Par exemple, pourquoi les révolutionnaires n'ont-ils pas questionné les rapports sociaux sous l'angle du désir? Sous l'angle en particulier du lien qui peut nouer et dénouer désir amoureux et désir de révolution.
La tradition de pensée révolutionnaire européenne est une tradition du détachement, une tradition qui voit dans les attachements ce qui opprime et dont il faut se défaire pour conduire l'humanité à son plein épanouissement. C'est peut-être pour ça que la question de savoir ce qui rend une révolution désirable n'est pas habitée par les révolutionnaires. Oui, il doit y avoir une corrélation entre la mise à l'écart soigneuse de la question de l'amour par le mouvement révolutionnaire tout au long de l'époque classiste de la politique et la mise à l'écart de la question du désir de révolution.
Même les féministes, dont on aurait pu penser qu'elles réveilleraient sur ce point leurs camarades, ont plutôt aggravé les choses. Faire du patriarcat l'ennemi principal les a en général détournés de toute position révolutionnaire. Et pour ce qui est de l'amour, celui des hommes du moins, on est allé jusqu'à le soupçonner de n'être que la rançon du consentement à l'oppression.
Il faut dire qu'on avait tellement identifié les femmes et l'amour, supposés être leur souci majeur dans l'existence, que plutôt que de partager la garde de la question, oui, la tentation a dû être grande de s'en défaire purement et simplement.
C'est comme si la question de l'amour brouillait deux fois celle de la politique, sur le front de la lutte des classes et sur celui de la lutte des sexes. Sur le premier front, il y a un autre type de relation qui brouillait déjà la clarté des buts de la révolution. Les relations mélangées entre bourgeois et prolétaires, dans les fêtes populaires par exemple. L'amour, versatile, fait de chacun un traître potentiel non seulement à sa classe, mais aussi à son sexe.
Est-ce que tu crois que c'est pour cette raison que Hannah Arendt, elle que la question de la politique passionnait pourtant, a écrit « L'amour est, de nature, étranger au monde, et c'est pour cette raison, plutôt que pour sa rareté, qu'il est non seulement apolitique, mais même antipolitique, la plus puissante peut-être de toutes les forces antipolitiques. Si l'on ne s'en tient pas au lieu commun des amoureux abrités par leur bulle des arêtes du monde, une telle idée se comprend difficilement. » Tant l'amour semble au contraire un moteur puissant de la politique, en particulier un puissant conducteur du désir de révolution, comme on dit de certains métaux qu'ils sont conducteurs du courant électrique.
Rien n'est plus contraire à l'image de l'être aimé que celle de l'État, dont la raison s'oppose à la valeur souveraine de l'amour. L'État n'a nullement, où il a perdu, le pouvoir d'embrasser devant nous la totalité du monde. Cette totalité de l'univers, donnée en un même temps, au dehors dans l'être aimé comme un objet, au dedans dans l'amant comme sujet, n'est pleinement accessible à nous que dans l'accord de l'amour. C'est seulement dans l'amour qu'il embrase qu'un homme est aussitôt, silencieusement, rendu à l'univers.
Il n'y a de pensée révolutionnaire qu'amoureuse, c'est-à-dire capable de voyager entre tout ce que le dualisme occidental nous a représenté comme irréconciliable, et entre autres l'idée du masculin et du féminin. Que la réalité amoureuse subvertisse l'une ou l'autre de ses frontières, l'organisation sociale s'en trouve implicitement menacée, la représentativité, la délégation des pouvoirs n'ayant plus soudain de fondement réel.
Oui, l'amour est une passion anti-étatique plutôt qu'anti-politique, et il conduit naturellement ce qui l'embrase à ce désir d'embrasement qu'est le désir de révolution. Mais depuis l'entre-deux-guerres, les relations individuelles des sexes ont cessé d'être le lieu par excellence où se réalise la passion. Celle-ci paraît se détacher de son support. Nous sommes entrés dans l'ère des libidos errantes, en quête d'un théâtre nouveau. Et le premier qui s'est offert, c'est le théâtre politique. De sorte que pour nous, qui venons après cette autonomisation de la passion sur la scène des politiques du siècle passé, repenser ensemble l'amour et la politique ne peut se faire qu'à distance du modèle de la passion.
Et Fourier alors?
L'utopie de l'amour libre? Y a-t-il rien de plus adéquat au libéralisme existentiel ambiant?
Oui, mais la théorie des attractions passionnées. On peut bien chercher à en finir avec les survivances exsangues du mythe de la passion malheureuse, on n'en aura pas même commencé avec l'idée fourriériste de la passion. Pour lui, la passion, l'attraction sont des forces matérielles et n'appartiennent pas au registre des objets idéaux. C'est pourquoi un de ses ardents défenseurs a pu écrire en 1971 à l'attention de ses camarades marxistes-léninistes, pour les rassurer ou peut-être au contraire les inquiéter, il ne peut y avoir de lutte contre la civilisation qui ne soit contribution à la révolution prolétarienne, et une lutte prolétarienne qui ne mettrait pas en question un fait de civilisation sur le plan de l'autorité, des structures, des institutions ou des valeurs, ne serait pas encore révolutionnaire, mais simple recherche d'une meilleure intégration à la société bourgeoise.
D'accord, mais cela n'équivaut pas du tout encore à prouver la nécessité du communisme par la voie amoureuse. Car en fait d'articulation, ce genre de déclaration en reste à un niveau de cohérence logique. Rien ne contraint les passionnés de révolution amoureuse à œuvrer à la construction d'une révolution tout court, ni l'inverse. Il ne sert à rien de dire que l'attraction est une force matérielle si l'on ne construit pas en même temps les canaux immatériels capables de la conduire dans d'autres directions que celles qui, en civilisation, enclosent les passions et les incitent à se retourner contre elles-mêmes.
Le même fourriériste écrivait que la mise en acte, au sein de l'ordre civilisé, est sans attendre de contre-sociétés marginales, de petits groupes ou communautés constituant des expériences immédiates de changement de vie, peut être considérée comme une nouvelle forme de stratégie révolutionnaire qui, par la faille qu'elle ouvre, l'appel qu'elle suscite, corrode de l'intérieur la totalité organique de cet ordre. 30 ans de contre-révolution plus tard, n'était la référence à la stratégie révolutionnaire, ces mots pourraient figurer sur un dépliant à la gloire du développement durable du capitalisme. L'histoire ne manque jamais de nous refaire sa leçon, et par exemple celle-ci, qu'un front n'est un front que s'il est éprouvé, c'est-à-dire à la fois pensé et pratiqué comme tel en situation. À elle seule, de telles expérimentations ne gênent pas beaucoup un ordre qui se recompose sans cesse à partir de ses zones corrodées, de ses points de faiblesse.
Il me semble que Fourier voit dans la liberté en amour la condition de la liberté politique, et que s'inspirer de lui, cela voudrait dire se proposer d'actualiser la charge anti-étatique de l'amour en s'attaquant à la contradiction entre désir de révolution et fidélité amoureuse. Ce qui reviendrait à supposer que, extirpé de la gangue du couple, c'est-à-dire de la famille et de la visée procréatrice, mais aussi bien de la forme du couple chargée de porter la nostalgie de l'absolu, l'effusion amoureuse pourrait libérer sa puissance révolutionnaire. Et voilà, récuser l'opposition traditionnelle depuis Platon entre l'éros inégalitaire des amants exclusifs et la philia de la camaraderie politique. En se basant sur le caractère égalitaire, voire égalisateur de l'amour physique, on pourrait avancer une redéfinition érotique de la camaraderie. Plutôt que d'opposer éducation politique et éducation sentimentale, faire de l'amour physique un instructeur politique. Voilà une maxime fourriériste.
Mais quel usage pouvons-nous faire de maximes de ce genre ? Rien n'est moins évident, car ce bel enchaînement n'a rien d'automatique. À l'évidence, d'une complicité érotique ne découle pas nécessairement une camaraderie politique. Sinon, les partous organisés entre inconnus n'existeraient pas.
Les modernes, depuis Rousseau, s'imaginent qu'il existe une sorte de nature normale, à laquelle la culture et la religion seraient venues surajouter leurs faux problèmes. Cette illusion touchante peut les aider à vivre, mais non pas à comprendre leur vie, car tous, tant que nous sommes, sans le savoir, menons nos vies de civilisés dans une confusion proprement insensée, de religion jamais tout à fait morte et rarement tout à fait comprise et pratiquée. De morales jadis exclusives, mais qui se superposent ou se combinent à l'arrière-plan de nos conduites élémentaires, de complexes ignorés, mais d'autant plus actifs, et d'instincts hérités, bien moins de quelque nature animale que de coutumes totalement oubliées, devenues traces ou cicatrices mentales, toutes inconscientes, et de ce fait, aisément confondues avec l'instinct.
Fourier, un bon moderne, voit la source des maux des civilisés dans le moralisme. Comme Diderot dans son supplément au voyage de Bougainville, il oppose aux moralistes la nature humaine et ses exigences, en d'autres termes la réalité des mœurs, en particulier l'inconstance en matière amoureuse. Mais faire de la morale l'obstacle majeur sur le chemin de la liberté en amour passe sous silence des difficultés plus immanentes. Des difficultés qui donnent à penser que l'inconstance en amour n'est peut-être pas seulement le signe, l'appel, d'une liberté à conquérir,
mais celui d'un impossible auquel se confronter.
En somme, il n'y aurait rien de mieux à opposer à Fourier que le mythe fatigué de l'amour-passion.
Je ne dis pas cela. Je dis que le mythe de l'amour-passion, le mythe d'un amour dont l'authenticité se mesurerait à la souffrance de ceux qui le vivent, donne la forme d'une réponse absolue à ce qui est plutôt un problème. Il y a une impossibilité constitutive de l'amour que l'on ne sait pas penser, dont on ne sait pas comment s'y rapporter, et dont on se débarrasse en disant que tout amour est au fond impossible.
Dans un texte à propos du roman de Duras, Le ravissement de Lolvestein, Lacan dit des personnages qu'ils sont pris dans les ronces de l'amour impossible à domestiquer. Voilà une manière plus précise d'entendre l'impossibilité de l'amour. Si l'amour est impossible, ce serait à domestiquer.
D'où la tâche démente de toute conjugalité, celle de parvenir à maintenir l'amour hors d'atteinte du pouvoir corrosif de la domesticité où pourtant, par définition, elle lui offre asile.
Par définition en civilisation, comme disait Fourier. Son hypothèse à lui, au sujet de l'impossibilité de l'amour, ce serait que l'impossibilité de l'amour au singulier se résoudrait par la libération des amours, et par la mise en place d'une organisation sociale qui serait appropriée à cette liberté. Celui qui, doté de son expérience de civilisé, verrait les amours de pleine harmonie, pourrait, selon Fourier, dire avec raison « J'ai connu l'amour et non pas les amours ». Et cela non pas seulement parce que la critique de la civilisation repose sur celle du mariage monogamique, pas non plus seulement parce que l'amour harmonien est la manifestation au grand jour de tout ce que la civilisation dissimule et condamne, mais parce que le système de Fourier ne se contente pas de réunir et d'intégrer les amours que la civilisation développe au hasard et isole, mais confère une vérité à ce qui, en civilisation, ne peut jamais être que partiel et faux. C'est ainsi que pour lui, seul le crime est vérité en civilisation, mais il n'est vérité qu'en germe, car la passion ne se signale encore en lui que par son envers ou son manque.
Il y aurait une autre manière de comprendre cette idée de l'amour impossible qui ne se résoudrait pas par la libération des amours. Pour ma part, je crois que l'idée de l'amour impossible, ce n'est pas que l'amour n'existe pas, qu'il est une illusion qui bute sur toutes sortes d'obstacles, comme l'incompatibilité entre les sexes, le narcissisme qui ferait qu'il n'y aurait d'autre amour possible que l'amour de soi ou l'hypocrisie marchande de la civilisation, mais qu'il entre en incompatibilité avec la vie. Amour impossible signifierait au fond amour impossible à vivre, au point que ce soit pour celui qui l'éprouve, l'amour ou la vie.
Qu'est-ce que ça veut dire, l'amour ou la vie ?
Cela peut vouloir dire deux choses. Soit que l'amour appelle un type de soin qui est exclusif d'autres, de sorte que la vie amoureuse entre en conflit avec toute autre forme de vie, dans une sorte de conflit des vies. Soit que le type d'état dans lequel nous plonge l'amour est profondément incompatible avec toute autre dimension du vivre, à la façon dont l'autre état est incompatible avec les bornes du quotidien. Mais peut-être les deux explications ne sont-elles pas exclusives. Peut-être est-ce, il y a un conflit des vies, par exemple un conflit entre vie communiste et vie amoureuse ou vie amoureuse et vie religieuse, parce qu'il y a un conflit entre l'autre état et les dimensions plus prosaïques de l'existence, de sorte qu'il n'y a pas place, dans la même vie, pour plusieurs sortes d'ascèses donnant lieu à plusieurs sortes d'extases. On dirait alors qu'à un premier niveau, l'amour comme état se concilie mal avec les fonctions sociales, les choses à faire, qui nous font quitter son feu, nous en repose. À un deuxième niveau, la vie amoureuse, comme genre de vie tourné vers ce feu, se concilie mal avec d'autres genres de vie tournés vers d'autres feux. Par exemple, une vie religieuse ou révolutionnaire.
Alors, prendre au sérieux la question de l'amour avec celle du communisme, nous conduirait à faire l'hypothèse qu'il y a comme une rivalité des extases. Et si chez les mystiques chrétiens l'extase religieuse est décrite avec les mots de la poésie des troubadours, c'est une captation pour une expérience déplacée sur le terrain de la relation à Dieu. La question de Kierkegaard, et sa proposition à Régine, sa fiancée, était peut-être de savoir si ce déplacement pouvait se vivre, et se vivre à deux. Peut-être est-ce face à une question de ce genre que sont placés tous les amants communistes.
Car ce que tu ne peux avoir que pour toi seul n'est jamais le bien suprême.
Je suis sûr que le monde ne contient rien qui serait capable de combler le besoin d'aimer que je suis forcé de dire qu'il y a en moi.